And turning your Bibles with me tonight to
tournez dans vos Bibles avec moi ce soir dans Exode chapitre 17.
And turn over to
et ensuite nous irons
1 Samuel chapter 30. So beginning in
1 Samuel 30.
And hopefully everyone listening, especially those on the internet.
Et j'espère que tous ceux qui écoutent par Internet, suivez les informations très attentivement.
The man on the screen misinformed me. So Pastor Dwayne's going to be a lot to say. But it's amazing, isn't it, how many people that I've spoken with have told us
c'est incroyable.
They tune in and they listen to our services live on the
combien de fois j'ai
and
parlé à des gens qui nous suivent live. Il y a des gens qui sont réunis au Texas et qui nous suivent et qui suivent le message. Dans Exode 17, verset
8,
peut-être cela va ramener à notre mémoire un message classique de Pastor Stevens. Amalek vint. Quelqu'un peut-être se souvient de ce message extraordinaire. Il vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main, et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse y élevait la main, Israël était le plus fort, et lorsque il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et là, il dit que dans une version, il dit qu'ils ont été, ils n'étaient pas confortables. Et après que cette bataille était terminée, au verset 16, il est dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et nous sommes familiers avec ce principe. Amalek était le petit-fils de Ésaü, et il était un type de celui qui est né selon la chair. Selon Galates 4, 22-29. Amalek a été l'ennemi persistant d'Israël. Donc, autant dans le désert que en Israël, Amalek a toujours combattu Israël. Parce que Dieu nous dit que de génération en génération, l'Éternel sera en guerre contre Amalek. Amalek représente notre vieille nature pécheresse. Et nous comprenons que lorsque Dieu dit dans Exode 17 qu'il combattra Amalek, c'est vrai. C'est un type de la vieille nature pécheresse, de la chair. Et il y a toujours une bataille entre ces deux natures. Il y a une guerre civile qui se passe dans notre âme. Récemment, j'ai dit à quelqu'un, il me semble que la vie, notre vie va dans la même direction, mais dans deux chemins différents. Un chemin où on cherche Dieu, on désire Dieu, et un autre chemin, ou un sillon, on va dire. C'est tellement instable. Un chemin qui peut nous détourner de la volonté de Dieu si facilement. Et tu sens cela en toi. Et donc le fait que Dieu dit que sera l'expérience de génération en génération sera la guerre contre Amalek, ça n'arrêtera jamais. Et donc 1 Samuel 30, au verset 17. Being at war with Israel from generation to generation is now a reality for David. Maintenant, c'est une réalité pour David et ses soldats. 1 Samuel 30. Pasteur Schaller a parlé un peu de ce passage l'autre soir alors qu'il parlait, il partait à Budapest. Nous, ils sont là-bas, à Budapest, pour la conférence, et nous, nous sommes ici, avec les affaires, quelque part. Donc, en application, c'est quoi les bagages? Les hommes sont restés pour garder les bagages. Au verset 1, il est dit, lorsque David arriva, le troisième jour à Tziklag avec les gens, les Amalécites avaient fait une invasion. Dans le midi de Tziklag, ils avaient détruit et brûlé Tziklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, et ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, ils étaient brûlés. Et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Juste par ce verset, tu peux être touché et tu peux comprendre les émotions de ces grands hommes, de ces guerriers, des grands guerriers qui pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Et David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. D'abord, nous lisons que David et les hommes étaient tellement découragés. Et j'ai cherché dans le langage hébreu, ça parle d'une anxiété qui t'enferme. Donc quand tu es en détresse quelque part, c'est comme si tu es dans une boîte et il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Mais si tu penses comme David, il n'y a peut-être pas de sortie à droite et à gauche, mais il y a une sortie vers le haut. Donc une place d'anxiété, sans ouverture, sans sortie. Ça veut dire qu'il était tellement oppressé, moment par moment, alors que les hommes commencèrent à exprimer leur mécontentement, leur frustration, et même ils parlaient de lapider David, de tuer David. Et on peut être tellement découragé avec les problèmes, qu'on peut arriver même à un endroit qu'on veut, on veut même, on peut pointer le responsable, le pasteur, etc. Et on se dit, je ne serais pas dans ce problème si ce n'était pas à cause de lui, à cause de lui, à cause de cette église. C'est tellement facile de faire ça. Mais qu'est-ce que David a fait? Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et j'aime ça. Cela veut dire que lorsqu'il s'est encouragé lui-même, il a demandé à Dieu quelque chose, et Dieu lui a donné quelque chose qui lui a donné le pouvoir non seulement d'agir, mais d'endurer. Encouragé dans le Seigneur, ça veut dire que tu cherches le Seigneur d'une certaine façon, que tu cherches sa puissance afin d'agir, et quand tu reçois sa puissance pour agir, mais tu es aussi capable d'endurer. Et ça, c'est vraiment la chose extraordinaire au sujet de la puissance de Dieu. Donc, notez ceci. Et vous n'aimez pas la façon dont David parle à Dieu? Donc, David dit à sacrificateur Abiathar, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, et j'aime le langage de David, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et j'aime cela. Et nous pensons parfois que ce genre de langage, c'est juste pour les grands hommes ou pour les saints, ceux qui ont une intimité tellement extraordinaire avec Dieu, ou ceux qui ont une autorité de puissance dans le royaume de Dieu, ou comme David, les paroles d'un roi. Mais David savait comment parler avec Dieu. Il savait que Dieu parle le langage de l'honnêteté, le langage de la vérité. Et ce n'est pas... Et c'est commun de trouver David parler à Dieu dans les psaumes qui parle vraiment d'une façon intime avec Dieu. C'est moi, j'en ai marre, j'ai fait des bêtises, mais s'il te plaît, sors-moi de là. Et je pense que Dieu se réjouit quand ses enfants lui parlent avec leur cœur, qu'ils mettent tout sur la table et qu'ils disent « Voilà la situation ». Voici le problème dans lequel je suis. Et j'ai besoin de toi plus que jamais. Et j'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant. Et David a simplement parlé avec Dieu. Et je pense que ça, c'est le langage que Dieu aime dans la bouche de ses enfants, le langage de la vérité et de l'honnêteté. Et qu'est-ce que David a fait? Et David se mit en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivaient au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étant arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Donc voilà. On ne lit pas ici David qui donne des instructions particulières. Je ne veux pas laisser les affaires qui ne sont pas gardées. Donc, vous, les 200, vous allez rester ici et vous allez garder. Et c'est comme ça on pouvait entendre les 200 hommes qui sont restés dire « Non, on veut aller avec toi, on veut aller combattre, on veut retrouver nos femmes et nos enfants. » Et David aurait pu dire « Oui, je sais. Non, non, mais vous devez rester ici. » Mais la Bible ne dit pas ça. Ce que la Bible dit, c'est « Ils étaient fatigués. Ils étaient exténués. » Et en référence avec Amalek, parfois lorsqu'on combat Amalek, c'est ce qui peut arriver à notre âme, on peut être complètement fatigué contre ce grand ennemi. Que ce soit Amalek ou le Dieu de ce monde, ou les détails de la vie qui nous oppressent, et chacun de nous, à n'importe quel moment de notre vie, on peut avoir des moments comme ça aussi, de fatigue. Et ils ont juste dit à David, on est trop fatigué, on va rester ici. Donc je ne sais pas combien fatigué un homme doit être au point qu'il ne veuille pas aller, malgré sa fatigue, secourir sa femme et ses enfants. Et que dire lorsque tout le monde est revenu avec la femme et les enfants? Et les femmes qui disent, où est mon mari? Et ceux qui sont allés les délivrer leur diraient, ton mari était fatigué, il est resté derrière. Et les femmes auraient pu dire, il était vraiment fatigué. Si elles avaient des rouleaux pâtisserie dans la main, elles auraient brisé ses... leur rouleau de pâtisserie sur la tête de leur mari. Et en fait, cet homme était près du torrent et il se rafraîchissait les pieds. Mais je peux vous dire que Dieu nous aime. Tout fatigué. Trop fatigué. Vous savez ce qu'ils représentent, ces hommes? Ils représentent chacun de nous ici, les gens dans le corps de Christ. Ça parle des gens dans l'église, des gens qui sont juste fatigués, Des gens qui sont malades, des gens qui ont trop travaillé, peut-être des problèmes émotionnels, peut-être le divorce, peut-être juste un désappointement, du découragement. Et parfois, il semble que voilà, on ne peut pas aller de l'avant. Et vous savez ce qu'on dit à ces gens? C'est OK. OK, assieds-toi. Assieds-toi au torrent. Tu vas attendre ici. Et ceux qui sont capables, ils vont aller. Et ils vont poursuivre les Amalécites. Donc, ils sont restés en arrière. Et David a poursuivi les Amalécites juste comme Dieu l'avait dit. Parce que Dieu avait dit, si nous poursuivons, est-ce qu'on atteindra? Et Dieu a dit oui. Et au verset 18, il est dit, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux femmes, et il ne leur manquait personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Juste comme Dieu a dit. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau, et qui marchaient à sa tête, disaient, c'est ici le butin de David. Et David arriva près des 200 hommes qui étaient trop fatigués pour le suivre, et qu'on avait laissé au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui, et David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmenèrent et ils s'en aillent. » Et c'était déjà, ils pensaient, une punition de retrouver leur femme. Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. » Et voilà maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Seigneur qui leur a donné les Amalécites. C'est Dieu qui les a délivrés de la main des Amalécites. Et quand ils ont commencé à poursuivre les Amalécites, ils ne savaient pas où aller. Ils ont découvert un Égyptien, un jeune Égyptien malade, que les Amalécites avaient laissé derrière eux. David l'a trouvé, il l'a nourri, il lui a donné à boire, et il lui a dit, est-ce que tu peux nous dire où sont les Amalécites? Et il a dit, si vous ne me tuez pas, je vais vous le dire. Et il leur a dit, et il les a conduits jusqu'à les Amalécites. Et ne me dites pas que ce n'est pas la grâce de Dieu. Et les Amalécites ont été livrés entre les mains de David, et c'était la grâce de Dieu. Et David a réalisé quelque chose. Ça, c'est juste à cause, tout ça, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et quand il est retourné, les 200 hommes étaient là. Et ils étaient sûrement rafraîchis. Vous êtes là. Et les autres hommes ont dit, ne me dites pas qu'on va diviser le butin. Ils n'auront rien. Et David a dit, non, on ne va pas faire comme ça. Ils vont partager la victoire que nous avons expérimentée. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que Jésus, notre David, a fait la même chose lorsqu'il est allé à la croix. Il n'est pas allé à la croix. Je vais sauver ceux qui travaillent fort, ceux qui endurent, ceux qui ont de la puissance, qui sont capables de combattre. Il a dit non, je vais aller à la croix, je vais payer pour les péchés et les crimes et les transgressions de tous les gens pour qui je vais mourir. Et tous ceux qui me recevront comme leur sauveur personnel. Et peu importe s'ils sont faibles, frêles, peu importe si à un moment donné dans leur vie, ils ne pouvaient pas combattre. Ils ne pourront pas combattre. Et ils devront s'asseoir au torrent de Bessor et attendre ce que Dieu va faire d'eux. Chacun a partagé la victoire qui a été gagnée au calvaire. David, comme Jésus a dit, non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et quel est le message dans ce passage? Dans 1 Samuel 30, c'est très simple. Dieu nous dit, à vous et à moi et à chacun, peut-être ce soir, tu te sens comme les 400 hommes qui sont allés combattre. Tu te sens en forme. Oui, je suis capable de rentrer dans la bataille. Je me sens bien, j'ai confiance en Dieu. J'ai eu une bonne semaine, j'ai eu une bonne année. Mais peut-être d'autres peuvent dire, oh, je suis venu sur mes genoux. Et je suis venu sur mes genoux à l'église tellement j'étais fatigué, je me suis fâché avec ma femme. Et si je n'ai pas un temps mort, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et on dit à ces gens, restez ici, ne vous inquiétez pas, parce que quand tu ne peux pas combattre, Dieu combat pour toi. Et quand tu ne peux pas aller de l'avant, il n'y a pas de problème, je le ferai pour toi, je vais te transporter tout le long du chemin. Nos faiblesses ne sont pas un problème pour Dieu. Ton manque d'habilité à poursuivre, ce n'est pas un problème pour moi. Et si tu as besoin du temps à t'asseoir au torrent de Bessor, juste assieds-toi. Et quand on va revenir, tu vas partager la victoire que les autres ont remportée. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Et quand tu es tellement inquiet, fatigué, rappelle-toi de cela. Jésus dit, je suis là, et si je dois te transporter, je vais te transporter. Si tu as besoin de repos, c'est ok. Tu as besoin de récupérer, c'est pas un problème. Et quand je suis fatigué, je suis avec Pasteur Cooper. Et donc je récupère.
They will win tonight because he is up there. But that's what I do. At times I need to recuperate. I need to sit down with
a brother. Parfois j'ai besoin de récupérer, de m'asseoir avec un frère plus fort que moi. Parce que tu sais ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, ce frère te réconforte et demain, c'est toi qui vas t'asseoir et qui va le réconforter. C'est l'encouragement mutuel. C'est l'expérience de la portion de chacun. C'est la vie mutuelle que nous partageons et peut-être aujourd'hui, tu combats ou peut-être d'autres, tu es assis au torrent de Bessor. Mais peu importe, la victoire est partagée pour chacun dans l'armée du Seigneur. C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Et aussi ce que nous avons besoin de garder, on a besoin de garder notre cœur, de juger ceux qui sont fatigués et qui ne peuvent pas continuer dans la bataille. Parce que parfois on peut dire, hey, qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Nous sommes un peu comme ces hommes qui sont revenus de la bataille. Non, on ne veut pas partager. Nous, on est couverts de sang. Nous, on a, comme Éléazar, cet homme vaillant de David, qui a tellement combattu que sa main était collée à l'épée et qu'ils ont dû forcer sa main pour l'enlever. Et on peut dire ce soir, je ne me sens pas comme Éléazar. J'arrive pas à porter l'épée. Mais Dieu dit, ne t'inquiète pas, il y a la place pour toi dans le corps de Christ. Parce que chacun trouve sa place dans le corps de Christ. Et j'aime ce que David a dit au verset 24. Et qui vous écoutera dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront.
They could say to their wives, oh honey, didn't you hear David? We were with the stuff.
Et ces hommes qui sont restés avec la bagage sont allés voir leur femme et ont dit, nous sommes restés avec les affaires. On a gardé les affaires, c'est ce que David a dit. C'était notre part. Et alors les femmes qui ont pu être fâchées de ne pas avoir vu leur mari les délivrer ont été réconciliées avec elles. Parce que notre David, Jésus, a couvert notre faiblesse, nos péchés. Ces moments dans nos vies où on ne peut pas aller de l'avant. On ne peut pas aller dans la direction que Dieu nous montre. Je suis tellement fatigué, je suis frêle. Il me semble que j'ai besoin d'être sauvé encore et encore. Et Jésus dit, ne t'inquiète pas, je suis ta couverture, je ne t'abandonnerai jamais. Mon sang couvre tout ce qui peut être mauvais en toi. Et quand tu vas récupérer, quand tu seras restauré, tu verras que l'œuvre est accomplie et que tout est par grâce et que cela n'a rien à voir avec tes efforts. Tu seras capable, encore une fois, de te tenir sur tes pieds et d'aller de l'avant et de marcher avec les hommes vaillants comme tu l'as fait dans le passé. Et nous dirons, oh merci Seigneur, j'ai besoin d'entendre ça. C'est tellement intéressant. parce que chaque mot hébreu a vraiment une signification particulière. J'ai étudié ce que le mot Bessor, le torrent de Bessor veut dire. Ça veut dire, littéralement, ça veut dire un endroit où tu comprends ta signification. Et les gens qui étaient là pensaient qu'ils étaient inutiles, mais quand tu as une révélation de Dieu qui te dit, prends ce temps, repose-toi, comprends que je suis pour toi et combien tu as de valeur à mes yeux. Parce qu'on a tous cette tendance de dire, oh, si je pouvais être comme un tel ou un tel. Et pendant des années, je me disais moi-même, je veux être comme Pasteur Stevens. J'ai essayé 2 jours et j'ai dû être hospitalisé parce qu'il a tellement de vitalité et de force qu'il faisait tellement de choses. Et je me disais, je veux être comme Pasteur. Et je me trouvais bien souvent au torrent de Bessor. Et quand il me disait, comment ça va? J'ai besoin de récupérer. J'étais avec toi quelques heures et je suis tellement fatigué. Et nous regardons aux missionnaires et on peut dire, oh, si je peux être un missionnaire, mais je dois rester ici au torrent de Bessor. Oh, si je pouvais simplement cette vie exemplaire, cette qualité de leadership, ce don, ce talent. Et Dieu dit, ne te compare avec personne car ce n'est pas sage. Peu importe où tu es ce soir, sache que je t'aime comme tu es et ta valeur n'est pas basée sur ce que tu fais, ta valeur est basée sur le prix que j'ai payé pour te racheter. Ça, c'est la valeur que nous avons devant Dieu. Donc, à ceux qui sont anxieux, fatigués, Jésus dit, restez où vous êtes. Reste. Récupérez. Comprends ta valeur devant moi et laisse-moi faire quelque chose pour toi. Et pour ceux qui sont forts et qui peuvent continuer de combattre, ceux qui sont comme Éléazar, l'épée reste collée à votre main et rien ne peut vous fatiguer. Ne jugez pas ceux qui sont fatigués et qui ne peuvent pas aller de l'avant. Ce n'est pas la fin de la course pour eux. Ils vont prendre ce temps mort, ils vont se reposer, ils vont être refocalisés dans leur vie, ils vont se refocaliser dans l'œuvre accomplie et dans la réalité qui vient de le Dieu de toute grâce. Ils vont être énergisés, revigorisés, ils vont avoir une nouvelle sagesse et ils vont aller de l'avant. C'est juste une autre opportunité pour Dieu de leur donner ce que nous avons tous besoin. Et c'est juste, encore une fois, un peu plus de grâce. Parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas aller de l'avant. Amalek ne va jamais disparaître. La bataille que nous combattons ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'on arrive avec le Seigneur. Et nous aurons nos moments où nous serons fatigués. Mais gloire à Dieu, nous avons été conduits par notre David, le Seigneur Jésus. Et gloire à Dieu que lorsque nous sommes un peu inquiets, fatigués, oh, ne t'inquiète pas, arrête-toi, repose-toi. Il ne dit pas, oh, je vais t'envoyer dans le Club Med. Il dit, non, juste reste là, laisse-moi te parler, laisse-moi t'aimer, laisse-moi œuvrer dans ta vie. Reste assis au torrent de Bessor, comprends ta valeur, et lorsque nous comprenons notre valeur devant Dieu, alors nous tiendrons sur nos pieds et nous dirons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu nous dira, vas-y, rejoins les autres et va de l'avant dans mon plan parfait pour ta vie. Et quand tu comprends la grâce et quand tu es énergisé par l'œuvre accomplie, tu réalises qu'avec grâce, avec Christ, nous pouvons faire toutes choses. Parce qu'il nous fortifie. Amen. Merci Jésus.